CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy pour une émission spéciale Noël. Aujourd'hui, on vous parlera tradition, contes et histoire en occitan dans la deuxième partie de ce mag. Pour la première, c'est contes, c'est histoire, c'est patrimoine et chasse au loup. La chasse au loup, donc, en pays Midi-Quercy, grâce à une archive qu'a déterré le service inventaire du patrimoine du PETR, Léa Gérardin. Macario est avec nous. Bonjour Léa.
Bonjour.
Il y avait le loup il y a encore 200 ans en pays Midi-Quercy.
Tout à fait. Et en cette période d'hiver et de fête de fin d'année, je suis donc venue vous raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle. Une histoire inspirée donc de faits qui se sont vraiment déroulés il y a 200 ans. Au tout début du 19e siècle, dans les forêts de Montricou, village installé au bord de la rivière Aveyron, là où finissent ses gorges et ses causses et où s'ouvre la grande plaine vers Montauban. Nous sommes un jour d'hiver 1807. La France est un empire depuis 3 ans. Napoléon Bonaparte, fort de ses victoires militaires, engage de nombreuses réformes dans le pays. Étonnamment, il va opérer une synthèse entre certains acquis révolutionnaires et la reprise de principes traditionnels issus de l'Ancien Régime. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une illustration de ces derniers, d'institutions d'Ancien Régime. Donc on est un froid matin du début de l'année 1807. Joseph Accurse Louis Rigal d'Ouvrier, seigneur de Villeglis, vicomte de Bruniquel, s'installe à son secrétaire et il entreprend de rédiger 2 lettres. Une au maire de Bruniquel et l'autre au maire de Montricou. Le brouillard plane au-dessus de l'Aveyron, que le château de Bruniquel surplombe, et il fait émerger les causses complètement dénudées en cette période hivernale. Ça fait plusieurs jours que des nouvelles alarmantes lui sont rapportées. Des dégâts ont été commis dans 2 métairies du Bretou. Le paysan Roumégou a perdu 3 chèvres et les enfants ont interdiction de rentrer de la glandée à la tombée du soir. Le vicomte écrit alors, je vais vous lire la lettre, qui est l'archive qu'on a retrouvée, qui est la lettre adressée au maire de Bruniquel. Monsieur, étant informé des ravages que les loups, c'est bien d'eux dont il est question, commettent dans ces cantons, j'ai résolu de faire une battue dans les bois du Bretou, la forêt de la Garrigue et bois environnants. J'espère, monsieur, que conformément à l'invitation faite à toutes les autorités civiles et militaires par son Excellence le prince de Neuchâtel, grand veneur de l'Empire, de prêter aide et assistance à tous les officiers de louveterie, vous voudrez coopérer au succès de cette chasse en faisant prévenir les habitants de votre commune des articles suivants. Écoutez bien, on reconnaît là le ton d'un lieutenant-colonel. Alors, la chasse est ordonnée pour le 24 du mois courant. Le rendez-vous des traqueurs est à la métairie de la Dévèze, commune de Montricou, d'où ils seront dirigés là où il conviendra. L'heure est 5 heures du matin. Les tireurs borderont la muraille qui sépare le Bretou de la Garrigue, ainsi que celle qui l'entoure, selon où ira l'ordre de la chasse et comme il leur sera indiqué. Les traqueurs seront munis de tambours, cornes et crécelles et autres instruments propres à faire du bruit. Les tireurs ne se permettront sous aucun prétexte de tirer en allant ni en revenant du rendez-vous sur d'autres animaux que le loup, renard et ceux réputés nuisibles, sous peine de voir dresser contre eux un procès-verbal. On ne mènera aucun chien, autre que des mâtins ou des dogues, qui pourraient être utiles. Les chiens courants sont expressément prohibés. Si le mauvais temps empêchait de chasser au jour indiqué, la chasse est renvoyée au dimanche suivant. Je suis, monsieur, votre très humble serviteur, d'ouvrier de Bruniquel, lieutenant de louveterie.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire abracadabrantesque de loup à Montricou? Et d'ailleurs, c'est quoi un lieutenant de louveterie?
Aussi surprenant que ça paraisse, il y avait encore beaucoup de loups en France à cette époque, entre 10 et 20 000 individus au XVIIIe siècle. Et c'est que dans les années 1930 que les derniers loups auraient disparu entre la Dordogne et la Haute-Vienne par la chasse. En 1807, donc dans un paysage localement encore essentiellement agricole et boisé, bien que moins boisé que ce qu'on voit aujourd'hui, car le bois était alors une ressource très sollicitée. Les loups trouvent donc un lieu de vie entre le causse de Montrécou, Bruniquel, la forêt de la Grésigne. Et c'est là que Louis Régal d'Ouvrier, donc le vicomte de Bruniquel, qui a écrit cette lettre, intervient. C'est un homme d'action, avant tout. C'est un ancien lieutenant-colonel, ancien capitaine de régiment royal des vaisseaux, donc c'est un régiment d'infanterie qui date d'avant la Révolution française. Et avec l'arrivée de l'Empire, il prend possession d'une charge qui s'appelle la louveterie. Donc c'est une très ancienne institution qui remonte au Moyen-Âge et qui avait disparu dans les années 1780 parce qu'elle coûtait trop cher à l'État. Mais elle a été réinstaurée par Napoléon Ier, donc quand il devient empereur, en 1804. Donc le louvetier, c'est, je vous cite, un officier qui commande l'équipage pour la chasse au loup. Il est régi par le grand veneur dont nous parle la lettre. C'est le prince de Neuchâtel, aussi connu sous le nom de prince de Wagram. C'est un maréchal d'Empire qui accompagne Napoléon dans ses conquêtes, et donc qui est le grand officier qui s'occupe des chasses impériales. Et donc notre lieutenant de louveterie, le vicomte de Bruniquel, c'est lui qui doit organiser la chasse au loup à Montrécou. Et d'ailleurs, il en tire bénéfice, puisqu'il va toucher normalement 2 deniers par loup ou 3 deniers par louve tués ce jour-là.
Il y avait donc bien des loups en pays Midi-Quercy, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ils sont aujourd'hui oubliés, quoique...
c'est dommage, c'est vrai qu'on... aujourd'hui, le loup revient pourtant en France, principalement dans les zones de montagne, mais d'après les scientifiques et notamment la documentation de l'Office français de la biodiversité, les loups sont susceptibles de recoloniser tous les lieux propices à leur installation, c'est-à-dire en fait des zones tranquilles, pas nécessairement en montagne, avec du gibier sauvage en abondance. Et où il joue un rôle de régulation de ce gibier sauvage. Bah, après, moi, en tant que chargée d'inventaire du patrimoine, je ne peux pas vous dire si le loup va revenir habiter chez nous. J'en sais rien, je ne suis pas observateur de la nature. Mais moi, ce que j'observe, c'est l'histoire. Et je vois dans les textes que j'étudie, les fonds d'archives qu'on dépouille au gré de nos enquêtes, des pièces d'archives comme cette lettre que je vous ai lue, qui sont des témoignages d'un monde qu'on a oublié, où le loup était encore là partout. Et par exemple, j'ai aussi un exemple, par exemple au XVe siècle, Gaston Phébus, qui était le comte de Foix et seigneur de Béarn, il a écrit un livre de la chasse au XVe siècle, et je vous le cite, ce qu'il nous dit à propos du loup. Donc il dit « Le loup est assez commune bête, aussi n'y a-t-il pas lieu de le décrire, car il y a peu de gens qui n'en aient vu. » On veut dire qu'au XVe siècle, le loup, il est vraiment partout. Et c'était vrai en fait encore jusqu'au XIXe quasiment. Et pour terminer, les lieutenants de louveterie, ils existent toujours aujourd'hui. Et je vais vous citer ce que nous dit le président donc, de l'Association nationale des lieutenants de louveterie de France. Donc, les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui des agents bénévoles de l'État, ayant une mission de service public. Désormais, ils veillent à maintenir dans nos plaines, nos forêts, nos montagnes, nos zones humides, une vie animale compatible avec les activités humaines, avec la santé publique, l'agriculture et la sylviculture. Donc, c'est aujourd'hui des acteurs essentiellement liés au monde de la chasse. Leur mission, elle est... quand même, d'accompagner la présence du loup en France sous la coordination de la brigade mobile d'intervention des grands prédateurs terrestres. Et ça, c'est l'Office français de la biodiversité. Par contre, les expertises menées par le Muséum national d'histoire naturelle signalent que la population de loups est quand même encore vulnérable dans le pays. Il y a environ 1000 loups en France aujourd'hui. Donc, cette lettre... donc de 1807, que je vous ai lu, elle nous parle quand même encore un petit peu de nos enjeux du quotidien, parce qu'aujourd'hui, on a vu que le loup vient d'être déclassé d'espèce strictement protégée en Europe à simplement protégée. Donc voilà, ces archives anciennes, elles nous rappellent une ancienne inimité entre le loup et l'homme que nous, aujourd'hui, on doit encore déconstruire pour l'avenir.
Et cette archive nous servait de support pour ce mag spécial, mag du pays Midi-Quercy consacré aux contes et légendes. Il était donc une fois la chasse au loup à Montricou, qui nous était racontée pour cette première partie par Léa Gérardin-Macario, donc du service inventaire du pays Midi-Quercy. Merci beaucoup Léa.
Merci.
Et la suite, ce sera à propos de contes et légendes du Quercy en occitan et dans le cadre du pays d'art et d'histoire du PETR. Ce sera après la musique.
J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis que tu vas dans Napoléon, tu vas dans Napoléon, tu vas dans Napoléon, Léon, 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 Léon. Mais voilà qu'un soir au cinérama, au ciné en longueur, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte mollement étendue plus que nue t'a ému. Cette femme plus que nature, en couleur plus que pure, cette roulure sans pelure qui roulait en voiture, cette glu, ce serpent, cette chatte mollement s'est glissée, s'est lavée au creux de ta peau, Léon. Tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, 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 Léon. Depuis tu prends des airs rêveurs, Léon. Pourquoi mon Léon? T'es plus mon Léon. Pour une étoile dont la peau n'est qu'un rayon, un halo, nébuleuse, vapeur, sans chaleur. J'aurais Napoléon, j'aurais Napoléon, j'aurais Napoléon, Léon, 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 Léon. Ce fut voluptueusement, sans cri, ni geste, ni adieu. Tu basculas dans le néant, tu n'auras pas vécu bien vieux. C'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillée de curare. J'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, Léon, 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 Léon.
CFM, CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Deuxième partie de ce mag du pays Midi-Quercy pour cette émission spéciale Noël. On parlait de contes et légendes en première partie grâce à une archive déterrée par le service inventaire du pays Midi-Quercy autour du loup. Et on poursuit avec les contes et légendes, en particulier en occitan. C'est avec la chargée de mission du pays d'art et d'histoire du PETR qu'on va tout détailler. Bonjour Aude.
Bonjour Lisa.
Aude Caverzon qui a invité quelqu'un aujourd'hui.
Oui, en effet, Christian-Pierre Bedel. Bonjour Christian-Pierre.
Bonjour.
Donc tu es, je ne sais pas si on peut dire un occitaniste, mais en tout cas tu connais très très bien l'Occitan pour avoir été directeur de l'Institut d'études occitanes de l'Aveyron. Eh, c'est ça, hein.
De l'Institut occitan de l'Aveyron, c'est... Mais bon, c'est la même famille.
Oui, et tu as aussi participé aux opérations Alcantou, qui sont des opérations de collecte de la mémoire occitane sur tout le Tarn-et-Garonne déjà, c'est ça?
Oui, j'ai eu le privilège de pouvoir concevoir et animer cette opération sur le département du Tarn-et-Garonne, le département de l'Aveyron et au-delà. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis de recueillir la mémoire de ceux qui ont eu l'occitan comme première langue, donc ceux qui leur ont été transmis par l'oralité et non pas par les institutions, quoi.
Et voilà. Oui. Et justement, dans tout ce qui est oralité, eh bien, on a les contes et légendes qui se transmettent. Et donc, bien sûr, en pays midi-quercy, tous ces contes et toutes ces légendes se transmettent en occitan. Alors, moi, j'avais vu, notamment, ben, dans les livres Alcantou, que c'était principalement au sein du cercle familial, lors de ce qu'on appelle des veillées, veillées d'antan. Et aussi, j'ai vu lors de réunions de décortiquage des noix, où on se partage tous ces contes et ces légendes. C'est des réunions de décortiquage des noix aussi.
Oui, alors ça c'est les béliades, bon, pratiquement la langue s'est maintenue surtout dans l'usage en milieu rural, jusqu'à la génération de mes parents qui ont eu souvent l'occitan comme première langue, et donc dans les travaux, dans le rapport de voisinage, c'était la langue qui était utilisée au quotidien. Et effectivement, il y avait beaucoup de récits, alors c'était souvent des petits récits, des petites histoires, des histoires aussi sur la vie quotidienne, sur l'environnement, des choses plus ou moins humoristiques. Donc dans une ambiance, alors pourquoi le décortiquage des noix, des noix-lia, c'était parce que, bon ben voilà, les noix commencent à tomber là à l'automne, on les fait sécher, on les met sécher plutôt à l'ombre, et puis là on arrive sur vraiment dans l'hiver, des veillées, les journées sont courtes, donc on ne peut pas trop travailler. À l'époque on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas les phares, les tracteurs, etc. C'était le soir au coin du feu, et c'était le moment propice. Et alors il fallait faire l'écalage des noix, c'est-à-dire des noix Léa, pour enlever le cerneau. Et le cerneau servait à faire l'huile de noix. Et l'huile de noix, on se servait pour s'éclairer, entre autres, les dépôts, les résidus, servaient pour s'éclairer dans un kalel. Le kalel, c'était une lampe à huile, quoi, alimentée par ces résidus d'huile de noix.
Et ouais, donc voilà. On s'éclairait lors de ces veillées de conte. Et alors, après l'automne, on arrive à l'hiver, et puis Noël. Et donc, est-ce qu'on se racontait des contes et légendes particulièrement à Noël, ou pas forcément?
Alors, il n'y a pas de contes autour de Noël chez nous, parce que, bon, c'était quand même, les gens étaient très très christianisés, qu'il s'agisse des catholiques ou des protestants. Bon, ben pratiquement tout le monde avait ces références-là, et donc il y avait des traditions autour de la nativité, pas ma connaissance. L'histoire du rouge-gorge qui a mérité d'avoir, comment on dit, le papatch. Rouge, etc., parce qu'il a rendu service, alors certains disent à un pauvre, un mendiant, ou en fait à Jésus-Christ qui était déguisé en pauvre, un mendiant, et voilà. Bon, c'est toujours lié, presque toujours, à la religion. Et il n'y a pas tellement de contes profanes. Par contre, la Véliade, ça peut être un lieu effectivement de transmission des contes en général, mais il y avait surtout en fait des traditions spécifiques, particulières peut-être, qu'on retrouve pas partout ailleurs sur cette période de Noël, quoi.
Ouais, d'accord. Et tu disais qu'on ne connaissait pas forcément le Père Noël, ni le sapin de Noël, c'est ça?
Non. Ouais. Ça, c'est vraiment... le Père Noël, il est arrivé, on dit souvent, dans les tanks, c'était les réservoirs américains dans lesquels étaient cachés les premiers chars d'assaut pour pas que les espions, pendant la guerre de 14, informent les ennemis, l'Allemagne, tout ça et tout. Donc... on dit que c'est avec Coca-Cola et tout ça que le Père Noël a débarqué chez nous. En fait, c'est aussi une copie du Saint-Nicolas, Santa Claus, qui est très très répandu dans les pays germaniques. Voilà, c'est le télescopage de plusieurs traditions comme ça, mais plus ou moins sacrées au départ et qui deviennent très profanes, strictement matérielles, on va dire, pas du tout spirituel. Donc c'est pas des choses dont on parlait, dont on se racontait.
Et ouais, vers chez nous, il n'y avait pas trop ce Santa Claus, non.
Ouais.
Ouais, d'accord. Et il y avait des personnages qui pouvaient remplacer un petit peu, ou...
Alors, ce qui se passait pour Noël, c'est toujours en rapport avec le sacré, la religion, mais c'est pas uniforme. Par exemple, les Provençaux, eux, ont une tradition très ancienne avec les chantouches. Les chantouches, c'est les petits saints, les santons. C'est, en fait, c'est, ce sont les personnages qui vont adorer le Christ à la crèche, à la greppio. Et ces personnages, il y a donc des mises en scène, des spectacles, des pastorales, hein, voilà, qui racontent des histoires et des événements qui se sont passés à ce moment-là, qui sont miraculeuses, et tout ça. Ça, c'était très fort en Provence, et cette tradition-là, elle était inspirée, elle serait arrivée en Provence vers le XVIIe siècle, elle était d'origine méditerranéenne, c'est-à-dire venait d'Italie et d'Espagne. C'est plutôt eux qui avaient initié ce genre de pratique. Et chez nous, ici, en Quercy-Rouergue, ben oui, il y avait des petites crèches qui se faisaient, mais c'était beaucoup plus récent. Il n'y avait pas cette littérature. Par contre, ce qu'il y avait, ce sont les chants de Noël, les nadalettes. Et là, pareil, c'est les Provençaux qui ont pris l'initiative, avec notamment Saboli au XVIIe siècle, qui a créé, des fois il s'appuyait sur des mélodies d'origine française, etc., soit c'était local. Donc on a toute une série de Noël en Occitan qui apparaissent au XVIIe siècle et qui, chez nous, se sont répandues de manière peut-être plus récente, mais à partir du XVIIIe siècle, ces traditions de chant de Noël en Occitan existent dans notre région, quoi.
D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Et après, au-delà de ces chants ou ces contes, oui, à Noël, oui.
Oui, je vois d'autres traditions.
Non, pas forcément. Après, moi, je pensais de manière plus générale, parce que on en parle aussi dans l'exposition Rando, qui est sur trois lieux différents du pays Midi-Quercy, et notamment, ouais, un des trois lieux, c'est Bruniquel, et c'est là qu'on parle de ces contes et légendes. Peut-être, bon, c'est une exposition sur le thème de l'eau, donc c'est des contes et légendes plus en lien avec l'eau, mais on parle donc plus généralement d'autres personnages, d'autres choses comme Loudrac. Tu connais bien ce personnage de Loudrac. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que c'est?
Oui, alors on a donc Loudrac, effectivement, qui était connu, puisque entre autres un conte avait été collecté sur la Bonnette, sur le franchissement justement de Bonnette par des jeunes revenant d'une fête, et ou en voulant aller à la fête au-delà de l'eau, et ils ne voulaient pas se tremper les pieds, et puis ils voient un cheval, alors certains comptent il est blanc, d'autres il est noir, bon, et puis ils disent, on va monter sur le cheval, et puis ils montent, et puis finalement, ils arrivent tous à monter, ils se retrouvent 24, et le dernier qui s'aperçoit de ça, il dit, mais moi, mon père, avant de traverser, franchir un cours d'eau, il fait toujours le signe de croix, alors il fait le signe de croix, et puis, pouf, tout d'un coup, le cheval disparaît, et ça c'est le drac, parce que le drac est un être protéiforme, il peut se transformer en n'importe quoi, en fil pour la couture, en couteau, en objet, en animal, enfin toutes choses, et il est en rapport souvent avec l'eau, et voilà pourquoi, oui, il y a ce thème.
Et, alors, il et avec le diable aussi.
Et puis il ricane, il dit, Saint Genis nomine patri, 24 Bunengo, nom du Fils, du Père et du Fils, c'est le signe de la croix, je vous noyais tous les trois. Voilà, il peut être dangereux, oui. Tous les 24, pardon, il était 24 sur le cheval. Quoi.
Et
voilà.
Oui, il est associé.
Il y en a un autre personnage assez courant dans nos contes, nos récits, c'est les Fa.
Les Facilieras.
Voilà, c'est les Facilieras. Et là, bon, effectivement, ce sont des personnages mi-fées, mi-sorcières. Bon, on ne sait pas, c'est assez ambigu. En tout cas, ce sont des personnages féminins, là. Et là, on les voit, on les entend plus ou moins la nuit. On entend la clape avec le battoir faire la lessive près des sources, près des lavoirs, des marques, etc. Elles sont en rapport souvent effectivement avec l'eau. Et ce sont des personnages. D'ailleurs, un dicton chez nous, quand on voit l'arc-en-ciel, on dit « T'es sous la fatigliere que faut la vivre ». On dit c'est les facilières qui font la lessive. Voilà, c'est un dicton. Donc ce sont des personnages, effectivement, à rapport. Alors, effectivement, ce genre de récit pouvait très bien se raconter à l'occasion d'éveiller en général, je dirais, de l'hiver, quoi. Oui. Et peut-être aussi sur Noël. Mais il y avait quand même des traditions spécifiques sur la période de Noël. Oui. En tout cas, voilà, il se passait des choses, quoi, à ce moment-là.
D'accord. Merci beaucoup, Christian Pierre, pour cette plongée dans les contes et légendes et de l'automne et de l'hiver.
Merci à vous et merci à Aude, merci à toute l'équipe, à toute la colo de CFM et à le plaisir, à la prochaine, à Cop KV.
Allez, à la prochaine.
Le mag du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h et en podcast sur le site cfmradio.fr.